Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
Et de Jacques Couture.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville, et notre thème aujourd'hui sera « La merveille que vous êtes ». La seule façon de surmonter les coups durs est de s'en remettre à soi et de s'aimer encore plus. Je pense qu'on met le doigt sur quelque chose de très problématique parce que j'ai pas l'impression que la majorité des gens s'aiment beaucoup aujourd'hui dans la société occidentale. Je crois pas que les gens se sentent comme une merveille, ils se sentent plutôt comme des automates ou ils sont très malheureux ou déprimés, etc. En tout cas, s'il y avait un peu plus de merveille dans le monde, je pense que ça paraîtrait dans les médias, dans un peu tout ce qu'on écoute, ça serait moins... pessimiste.
Quand tu dis qu'ils se sentent comme des automates, je ne suis pas certain s'ils se sentent comme des automates autant qu'ils sont conscients qu'ils sont des automates. Ils sont probablement armés d'une pensée qui justifie leurs actions. T'sais, ils pensent qu'ils font le bien en étant si dévoués à la cause externe à eux, peu importe le travail, la famille, ces choses-là. Et on dit des fois que les gens agissent toujours en pensant qu'ils font le mieux. Et pour eux autres, le mieux, c'est peut-être justement de travailler, d'acharner, de sacrifier, de pas vraiment penser à eux ou de penser à eux en dernier. Alors, dans ce sens-là, ça serait pas... C'est mon observation également. Dans la plupart des temps, les gens vont faire beaucoup pour les autres. Et eux autres, même, quitte à en perdre, à perdre des plumes dans le processus de sacrifier pour les autres. C'est une question assez profonde.
Il y a un lien certainement entre le fait de s'aimer et la santé en général, la santé physique, psychologique, etc. Comment être en harmonie avec soi-même pour vivre de beaux jours, être de plus en plus rayonnant. Être rayonnant, c'est se dire oui, être à l'écoute de ses désirs, les vivre le plus que possible, les partager aux gens, dire ce que l'on a envie. Ça, c'est pas quoi évident. Hein. Je suis personnellement toujours confronté au fait d'être pleinement moi-même. Je me dis, ben si je m'aime suffisamment, je dois apprivoiser ou encore développer ce côté-là de moi-même. Je me dis, si je ne suis pas pleinement moi, maintenant, quand est-ce que je le serai?
Bonne question.
C'est ça, je pense qu'il faut être capable de se choisir comme absolu. Moi, ça a été très rapide dans mon cas. Ayant découvert ma passion très jeune, à l'âge de 10 ans, j'étais dans le merveilleux parce que un BDiste, c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui peut faire ce qu'il veut. On peut faire n'importe quoi avant de dessiner un vaisseau spatial, des perspectives complètement hallucinantes. Tant que tu es capable de les dessiner. Moi, donc, j'ai baigné moi dans une atmosphère de merveilleux de toute mon adolescence en lisant aussi des bandes dessinées, souvent de la science-fiction. Et puis quand je suis arrivé à Montréal, il m'a semblé normal de dire, ben là, je vais me préférer en premier. Dans mon cas, c'est pour ça que j'ai pas commencé à travailler, parce que je peux même pas dire que j'ai arrêté, parce que j'avais pas commencé, mais j'ai décidé de me choisir et de me trouver, de découvrir qu'est-ce que je voulais vraiment. Et puis ça, pour moi, c'est ça qui a fait éclater les merveilles, la merveille que je suis, parce que sinon, je pense que je me serais éteint, ou j'aurais pu m'éteindre.
Mm-hmm. Il y a des vents forts qui cherchent à nous amener dans un mélange de toutes sortes de choses, incluant un manque d'individualité, puis un manque d'individualité, c'est vraiment le terme. Et on est, quand on y réfléchit plus profondément, on est vraiment le seul témoin de notre parcours dans cette dimension physique. Donc, c'est important de se rappeler de ça. Dans mon cas, moi, ça a été le voyage qui m'a amené à réaliser ça. Voyage à l'autre bout du monde, à les extrémités. Je me souviens encore aujourd'hui, un moment critique quand j'étais au Népal. Et c'est pourtant dans la... Puis c'est des fois, c'est dans des choses les plus simples qu'on le voit. Dans mon cas, c'était juste de voir des enfants pleurer à des moments donnés ou rire. Et j'ai vu que c'était la même chose universelle. Faut dire, j'avais 20 ans là, quand j'étais là. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai commencé à réaliser que les mêmes émotions, le même cœur, la même énergie animent tous les êtres humains. Ce qu'ils en font avec, c'est une autre chose, là, mais c'était la même chose, même à l'autre bout du monde. Alors, j'ai réalisé que c'était en même temps mon témoignage, ma leçon à tirer de ça. Et c'est là que les choses particulières sont commencées à solidifier une certaine individualité à travers mon parcours. Donc, c'est important, oui, c'est important de choisir soi-même, pas se faire aboutir ou se faire enterrer, c'est-à-dire par toutes les autres choses.
Est-ce que cela, Robert, tu crois que cela consiste à être en harmonie toujours pleinement avec les autres? On parle beaucoup de la dimension de soi-même, mm-hmm. dans le fait de se trouver merveilleux, d'aimer ce que l'on est,
oui.
mais aussi si on ne vit pas de bonne dynamique avec nos proches dans la vie de tous les jours. Hein? Il y a tant de gens qui sont en couple puis qui ne sont pas heureux, comment peuvent-ils se sentir bien et oui, eux-mêmes, personnellement, si c'est déjà très pénible dans leur vie de tous les jours, au quotidien, à leur vie amoureuse et autres, ou au travail, souvent, c'est ce qui se passe.
Ouais. Si tu me poses la question, est-ce que tu me poses la question?
Je te pose la question avec une introduction.
Alors, j'aime les questions simples comme ça, à trois mots au moins. En ce moment, qu'est-ce qui me fascine, moi, c'est redécouvrir la nature électromagnétique et aussi de fréquence énergétique là, de la pompe, cette fameuse pompe qui s'appelle le cœur, cette pompe qui pompe 100 000 fois par jour, des milliards de fois durant une vie, et ses qualités énergétiques. Et de là, mon cheminement m'amène à découvrir certaines fréquences, certaines vibrations qui sont de l'ordre des sentiments aussi, des émotions qu'on vit. Et de retrouver l'intelligence qu'on a à l'intérieur et de nous aider à naviguer, c'est justement ces moments difficiles de relation avec les autres, des fois, qui peuvent survenir, et notre potentiel comme tel. Donc, pour moi, c'est une voie que j'explore avec grande fascination.
Mais c'est pas toujours facile. Hein? Jean-Paul Sartre a écrit un livre qui s'appelle « L'enfer, c'est les autres ». C'est une pièce de théâtre et ça le dit bien. Je crois que c'est vrai. Même si je me sens parfait, j'ai conscience d'être dans un monde imparfait. Et pour faire une référence à ce que tu disais, Jacques, je trouve que c'est très difficile d'être en harmonie avec tout le monde. Parce que la majorité des gens ne sont pas harmonieux. Mmh. Donc même si moi je suis en harmonie, je me frappe constamment des gens qui ne le sont pas. Et ça use. Je pense que c'est une des causes de mortalité ici. C'est cette usure due au fait à tous ces gens qui sont pas dans l'amour de soi, qui n'ont pas découvert en eux la source de lumière, parce que je pense qu'il faut se faire lumière pensante, il faut faire son centre à l'intérieur de soi, et je vois ça très peu. C'est pour ça que moi j'ai toujours été très fasciné par les gens, l'éveil, l'illumination, tous les gens éveillés, les grands maîtres, je les ai étudiés, je les ai un par un catalogués, voir qu'est-ce qu'ils disaient, c'était quoi l'état dans lequel ils étaient. Et pour moi, quand je parle d'être une merveille, je parle de ces gens. Je parle pas du vulgaire, des gens normaux, parce que pour moi, ces gens sont pitoyables. Ils sont pris dans un carcan de pensées, de la morale, de croyances. Ils sont englués dans quelque chose qui les empêche de se sentir merveilleux. Et tu vois leur maison, tu vois leur habillement, tu vois leur auto, et ça brille pas, c'est ordinaire. Je pense que quand quelqu'un se sent merveilleux, il y a une lumière qui scintille quand tu rentres dans la maison de cette personne-là.
Et avec ça, cette lumière que l'on sent, cette énergie qu'on est animé face à ces gens qui ne sont pas, qui sont, comme tu dis, englués ou perdus dans un autre complet. Je pense que l'énergie devrait accompagner avec ça. Le résultat ultime, c'est que tu aussi possèdes en même temps les capacités nécessaires de pouvoir les bénir, les laisser être et puis leur laisser leur parcours. Parce qu'on n'est bien sûr pas en mesure de changer la face de tous et chacun. C'est pas notre mission. Mais je crois que quand on est vraiment à la bonne place, comme on parle en ce moment, ces qualités-là s'accompagnent de laisser être. C'est comme le... comme les Beatles ont dit, hein, live and let be.
Ouais.
Hein,
parce que bénir, c'est pas si facile de bénir les autres. Hein. Moi, je peux le faire. Dernièrement, je l'ai fait sur Facebook, sur des gens qui m'insultaient. Je les ai bénis. Et là, il était encore plus fâché. Mm-hmm. Il dit, comment oses-tu? Laisse la bénédiction au bon Dieu. T'es là, wow, OK. Alors, moi, j'ai quand même tenu mon bout parce que je sais qu'est-ce que ça veut dire. Bénir vient de benedicere, qui veut dire bien dire en latin. Donc, c'est simplement bien dire, répandre de la lumière. Mm-hmm. Donc, moi, je vais bénir, c'est évident. Mais pour la majorité des gens, je vois bien que quelqu'un qui a du temps pour bénir, qui a la croyance en la bénédiction, qui a du temps aussi pour réfléchir, c'est un nul, c'est un perdant. Et je l'ai vécu très, très souvent. Maintenant, c'est plus difficile de faire ça parce que maintenant, j'ai un travail, mais j'ai eu une longue période où j'avais absolument aucun travail. Donc, je l'ai vécu. Puis, bien, on va faire une pause avec la chronique d'Audrey, sous l'influence du bonheur. Et on revient avec ce thème, la merveille que vous êtes.
Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Propos sur le bonheur. Et bienvenue à la quatrième capsule sous l'influence du bonheur avec Audrey. J'ai 19 ans et j'essaie de mieux comprendre le monde dans lequel je vis pour m'aider à prendre des meilleures décisions et à faire des meilleurs choix. Je commence avec une citation de Calvin Coolidge, que je vous avoue, c'est un peu cliché, mais que je trouve vraiment importante à se rappeler à ce temps-ci de l'année. Mon âge fait peut-être défaut pour cette fois-ci. Noël n'est pas un jour, ni une saison, c'est un état d'esprit. Le temps des fêtes, c'est déjà quelque chose du passé, et puis malheureusement, l'esprit magique qui l'entoure aussi nous a quittés. Le temps des fêtes, pour moi, c'est Noël et le jour de l'an. Donc, à travers ma chronique, c'est ces termes-là que je vais utiliser. Le temps des fêtes veut dire plusieurs choses et c'est certainement différent pour tout le monde. Avez-vous célébré en grand nombre? Ou bien avez-vous reçu beaucoup de cadeaux? Vous ne trouvez pas que l'esprit magique qui entourait l'arrivée de l'hiver et puis l'arrivée du nouvel an, autrefois, a changé un peu et qu'on pourrait même dire s'est dégradé au fil des années? J'entends mes grands-parents et même mes parents parler des grandes veillées, des grandes soirées, qui se finissait jamais, la famille qui vient visiter de loin, qui arrive une semaine à l'avance. Les enfants se bâtissaient une complicité, puis un vrai petit monde que seuls eux comprenaient. C'est des images carrément sorties d'un film. C'est tout droit sorti de Chevy Chase, le sapin à des boules. Peut-être que c'est seulement ma famille qui ne vit plus Noël de la même façon, mais il me semble qu'en parlant à des amis, eux aussi, c'est le même genre de scénario. Tout le monde est de plus en plus fatigué, de moins en moins heureux. Les congés, ça nous permet de se reposer, mais sans plus. Il n'y a plus d'esprit magique. La musique traditionnelle qui gronde dans nos oreilles pendant tout le mois de décembre à tous les postes de radio, c'est supposé nous mettre dans l'ambiance de Noël. Mais cette année, on dirait qu'elle n'avait plus vraiment d'effet, puis que c'était presque aussi bien de ne pas en écouter. On a monté un sapin, puis on l'a démonté aussi vite pour se changer les idées et pour se faire croire qu'on faisait quelque chose qui ressemble à une activité du temps des fêtes. En fait, je suis peut-être un peu nostalgique. Mais est-ce que je peux vraiment être nostalgique de Noël que je n'ai jamais vécu? C'est quoi cette fameuse état d'esprit que je suis censée avoir avant, pendant et maintenant après le temps des fêtes? Je vous avoue que le paysage est merveilleux et inspirant ce temps-ci de l'année. Les lumières scintillent, les glaçons s'égouttent au bord des gouttières avec les flocons qui virevoltent, on dirait presque qu'ils dansent dans le ciel. C'est féerique, presque un conte d'enfant. Que vous soyez à Montréal, dans une ambiance urbaine avec les décors de la rue Sainte-Catherine, ou bien dans le Nord, dans une ambiance de chocolat chaud, de feu de foyer, c'est un état d'esprit super festif qui nous réchauffe l'âme et puis qui nous redonne un cœur d'enfant qui croit à la magie qui entoure la renaissance de l'année. Ça nous redonne un peu de jouvence. C'est comme si on se faisait donner une sorte d'énergie et puis de force de caractère pour recommencer d'un pas frais et déterminé. Je crois que c'est ça le temps des fêtes. Sans empiéter sur des thèmes que j'ai déjà abordés dans des capsules précédentes, on devrait peut-être oublier les choses matérialistes qui dictent nos chaque faits et gestes. On devrait peut-être revenir aux racines de ce magnifique temps de l'année qui nous donne une chance, une autre chance de s'améliorer en tant que personne. Essayons de donner un peu plus et de sourire un peu plus cette année. Après tout, c'est le temps d'oublier nos caprices de l'année et puis de se laisser emporter par l'ambiance d'espoir qui nous entoure. Donc oui, le temps des fêtes est terminé. C'est qui nous a dit qu'on peut seulement voir la famille, peu importe ce que le mot famille représente pour vous, dans le temps des fêtes? Et qui nous a dit qu'on peut seulement avoir un sentiment de renouveau puis d'espoir dans le temps des fêtes? On devrait redonner vie aux traditions et à l'esprit d'entraide. Puis ici, je parle pas du temps des fêtes, là. Il faut redonner vie à ces traditions-là qu'on a héritées de génération en génération, mais qu'on a bien égarées avec les années. Peut-être que ça, ça va nous aider dans notre quête du bonheur. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Écrivez-moi sur notre site web propossurlebonheur.com. Je suis Audrey et c'était la 4e capsule sous l'influence du bonheur à l'émission Propos sur le bonheur.
De retour à Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La merveille que vous êtes ». Cela s'est fondé sur le fait que nous nous appartenons, et non à l'usine, non à notre travail, et ça c'est vraiment une exception aujourd'hui. Quelqu'un qui s'appartient, j'en ai rencontré très peu. On me dit qu'au Québec c'est très à la mode parce qu'on a beaucoup de PME, des petites entreprises, des gens qui ont voyagé m'ont dit que c'est pas nécessairement comme ça partout. C'est vrai qu'au Québec, on a un sentiment d'individualité, on est un peu petit, on est tout petit, donc j'imagine que ça nous inspire à être plus indépendants dans notre manière de travailler. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis. Il me semble que ça semble comme ça qui est la meilleure manière pour moi d'aller chercher le maximum. Quand je regarde les gens qui travaillent officiellement dans des entreprises, ils se font voler au moins un 40% d'argent par le gouvernement. En plus, ils doivent payer des impôts quand même. Puis souvent, ils en payent plus que moi. Alors, je me dis, à quoi ça sert? Moi, je crois pas à ce système. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est tout cet argent qu'ils vous prennent pour votre retraite. Est-ce qu'il va être là dans 20 ans, dans 40 ans? Je ne crois pas. Moi, je ferai pas confiance à ces gens-là, donc... Mais c'est pas vraiment un choix hein, quand on travaille. Je pense que vous l'avez vécu. On vous laisse pas le choix. Vous devez donner ce 40%. Ou...
C'est une bonne question. Pendant longtemps, moi, j'ai travaillé pour des corporations. Et à un moment dans ma vie, j'ai décidé d'être à mon compte et je l'ai été pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'étais indépendant, toutes les responsabilités revenaient à moi, donc si le résultat fonctionnait, j'avais la victoire, si le résultat fonctionnait pas, j'avais le blâme, et c'était une approche de haute responsabilité. Quand tu es à ton compte, tu deviens très responsable, ça t'apprend rapidement à être responsable. Et ça venait aussi avec beaucoup de travail physique aussi. Dans mon cas, il fallait que je me déplace sur la route, il fallait que j'érige mon kiosque, il fallait que je vende mes produits. C'était beaucoup de travail dur. Quand je suis revenu au Canada, j'ai fait rapidement des démarches pour faire des choses. J'ai fait de la rénovation pendant un petit bout de temps. C'est pour me payer un véhicule. Ben après ça, j'ai pensé, ben peut-être que ce serait intéressant de prendre un emploi. T'sais, après, au lieu de prendre toutes ces responsabilités-là de nouveau, peut-être que ce serait bon d'essayer quelque chose plus facile. Et en dedans de quelques semaines, je me suis trouvé un emploi. Et l'emploi, tu te demandes des fois pourquoi choisir un emploi comparativement à d'autres. C'est des fois des questions que tout est déjà là. Tu n'as pas de responsabilité à prendre parce que tu arrives, puis le bureau est là, les équipements sont là, tu as juste à t'asseoir pour faire le travail qu'on te demande. Souvent, il y a des bénéfices sociaux qui sont agréables aussi, etc., etc. Mais il y a une trappe avec ça, une grosse, grosse trappe. Et celle de t'endormir sur tes réflexes d'indépendance, tes réflexes d'animal sauvage. C'est un peu ce côté négatif-là qui t'amène un peu à revenir à la pensée moyenne où ce que le monde rentre et sort. Puis ils sont vraiment comme dans une souricière, dans un peu, où ce que tu m'en es, tu t'aperçois que c'est tellement facile, tu n'as pas à changer les choses, mais si tu ne changes pas, si tu ne te mets pas un défi, tu viens qu'à... C'est comme un peu d'autres choses. Tu perds cet avantage-là. Tu perds cette capacité-là. Donc, c'est pas... C'est quelque chose à réfléchir. Pour moi, c'est comme ça que je le vois.
Ça dépend sans doute aussi de son style personnel. Oui. Si on a une tendance à être plus créatif ou aimer plus être conforme, les choses plus prévisibles, plus organisées et tout. Mm-hmm. Évidemment, je pense qu'on peut peut-être faire un travail quand on se dirige vers quelque chose que l'on aime. Hein. Il y a des gens qui ont... Il y a une expression qui dit... aimer ce que l'on fait ou faire ce que l'on aime. Si on réussit à faire ce que l'on aime, c'est par le biais d'un travail, bien tant mieux si cela est possible. Puis qu'on réussit à ne pas s'épuiser, peut-être c'est aussi, est-ce qu'on le fait sur une longue carrière toute sa vie ou on le fait juste quelques années pour découvrir quelque chose de spécifique, comme tu faisais référence, Robert. Mm-hmm. Moi, j'y crois dans certaines mesures, mais évidemment, plusieurs vont le faire, vont continuer à travailler, faire quelque chose qu'ils n'aimeront pas. Cela va les miner, ils vont se diriger vers... plusieurs, on l'entend souvent, tellement heureux que la journée soit terminée, tellement heureux que la semaine, enfin la semaine est terminée, enfin l'année, je me dirige vers ma retraite et tout. On dirait que c'est tout un constat là, de que c'est si lourd à vivre. Donc je pense que si on est rendu dans ce stade-là, mieux vaut le laisser et faire quelque chose d'autre. Là. Parce que sinon, justement, si on s'épuise, on se trouvera pas merveille, c'est pas là qu'on va rayonner. Mais en même temps, de tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, depuis le début, moi, je pensais, j'avais quelqu'un, je voyais en tête, qui fait un travail. Peut-être quand c'est une personnalité publique, je pensais à Marina Orsini. Je l'écoute pas souvent à la radio, mais elle est sur Rouge FM, je pense. Puis là, je me dis, mais elle a quand même tout un rayonnement, je la trouve assez merveilleuse et elle est, sympathique dans son approche. Peut-être que tu pourrais dire, Nicolas, que c'est comme un piège de la société et tout, etc. Mais je pense qu'elle semble vivre, elle. Ça semble être assez exigeant, peut-être les horaires, ou peut-être pas non plus. Je ne sais pas combien d'heures par semaine de radio qu'elle fait. Mais elle semble être pleinement elle-même là-dedans, puis ne pas s'épuiser. Puis elle reste, je pense qu'elle garde une... Elle m'inspire à sa façon.
Même. Il y a certainement des exceptions. Là, généralise ici, mais oui, quand je parle de la majorité, ce n'est pas les gens comme elle qui sont passionnés. D'accord. Je parle des gens dans les usines, des gens qui travaillent la nuit, des gens qui se sentent obligés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont déjà une maison à payer, des impôts, des choses, un paquet de dettes. Ils n'ont pas le choix. Et là, je me dis, comment tu veux... illuminé quand t'es pris dans des soucis comme ça, parce que il y a eu des courts moments dans ma vie où j'ai eu des soucis, j'ai eu des problèmes avec certains voisins il y a longtemps, et puis je voyais que ça me minait, ça me rendait un peu plus terne, un peu plus... Alors j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a toujours des problèmes comme ça, qui est toujours fatigué, comment peut-il éclater? Mais quand si je reviens là-dessus, moi ce qui me dérange, c'est que si je travaillais... Même si j'avais un poste bien payé comme elle, 40% sortirait directement pour le gouvernement. Mmh. Et moi, je crois pas au gouvernement. Je suis très anti-politique et je trouve que c'est du vol. Donc, moi, puisque j'ai le choix, je veux me choisir comme absolu, je vais faire le moins d'argent possible et puis je vais trouver des manières de faire du troc pour que finalement, à la fin de l'année, ici au Québec, si tu fais moins de 32 000, par exemple, tu payes beaucoup moins d'impôts, tu n'as pas à charger les taxes à tes clients. Donc, moi, je navigue là-dedans. J'ai un ami, justement, dernièrement, qui me disait ça. Lui, il faisait 90 000 par année. Il dit, crème, moi, même si j'ai un 40 000 qui va au gouvernement, tu sais, il me reste quand même beaucoup dans ma poche. Puis, il dit, tu ferais sûrement la même chose. Mais je dis, non, moi, j'ai toujours résisté à ça parce que je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas donner 40 % au gouvernement cette année. De la manière que j'ai navigué, j'ai reçu de l'argent parce que je fais tellement pas assez d'argent... Et puis finalement, que j'ai un retour d'impôt qui est plus grand que l'impôt que je paye.
Ouais.
Je me sens intelligent et je sens que je profite pleinement de ma vie au lieu de me faire sucer mon argent par des...
Tu me donneras le contact de ton comptable. Hein?
Mais par le temps aussi que tu
c'est pas laissé. Nécessairement la comptable. Ma comptable est quand même bonne aussi. Là. C'est une fiscaliste anti-politique. Okay. Elle aime vraiment pas
je
le gouvernement.
Bien.
Mais quand même, c'est moi qui navigue dans le sens que je pourrais faire plus d'argent si je voulais. Mais je vais me refrainer parce que pour moi, l'argent n'est pas tout. Ça me prend du temps.
Ouais.
Ça me prend du temps pour ma compagne. Ça me prend du temps pour mes livres, étudier les choses que j'aime. Donc, je préfère en faire moins que d'avoir, oui, beaucoup d'argent, mais qu'il y a une grosse partie qui s'en aille au gouvernement. Tu sais, c'est, pour moi, c'est tous ces petits détails qui font que, pour moi, la vie est merveilleuse dans ce sens. Je me sens merveilleux parce que je sais que je joue avec le système. Je ne suis pas son objet.
Ouais. Et mais est-ce que tu sens que tu as suffisamment de temps pour toi? Parce que souvent, quand on est très autonome, là, ce qui est fréquent, c'est que les gens font beaucoup plus d'heures que ce qu'ils voudraient faire en réalité.
Mais c'est, moi, je n'ai pas cette personnalité servile qui cherche constamment à
en
être
en
utile.
Ouais, d'accord.
Alors moi, au début peut-être, là, j'étais pas très bien préparé il y a quelques années quand j'ai commencé, donc je travaillais tous les jours, mais j'avais pas tant de contrats que ça. Puis soudain, ça s'est mis à devenir fort. Et puis là, maintenant, je ne travaille pas le soir. Je commence à 10h le matin, je finis à 6h, et puis je travaille pas la fin de semaine. Même si mes clients vont m'appeler, je réponds pas. Puis, tu vois, j'ai mis des limites parce que pour moi, c'est important. Le samedi, je le passe avec ma compagne. Le dimanche, c'est ma journée où je parle pas. Puis je travaille sur mes livres, mes sites web, mes choses comme ça. Donc, je me donne au moins cette journée-là. Et c'est drôle parce que le dimanche, j'atteins souvent un état... ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'atteindre l'extase le dimanche. Parce que toute la journée, si je travaille sur mes choses, je me sens bien. J'ai du temps enfin pour délier ma pensée, etc. Oh, on me fait signe que c'est déjà le temps d'aller à la pause. Eh bien, on va aller avec une chanson de PZK qui s'appelle « Je suis beau ». Dans le sens de « Je suis une merveille ». Et on va revenir après la pause avec ce thème « La merveille que vous êtes ».
J'ai pas trouvé. Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro. Sur le bras, mes parents veulent que je leur tire. Je prends ma douche en slow motion, même si je perds un temps pas possible. Grâce à mon ex faux brosse, dernier j'ai la police comme Starsky.
Grâce à ça j'ai la police. Grâce à ça j'ai la police.
Yeah, mon ego, je le vaux. Bien parce que je suis le plus beau. Muscu, abdos, fessier. Mon cul, je l'ai mérité. Les autres mecs ne font pas le poids. Je les laisse dans un sale état. Y'a un fossé entre moi et Michael Vendetta.
Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain comme je suis beau. Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Je sais que tu veux ma photo. Je me soigne, je mets de l'autobronzant. Non, je ne fume pas, je ne bois pas, je mange pas gras. Regarde le résultat, j'ai même pas besoin d'être grand pour faire du mannequinat. À cause de moi, tous les mecs se sentent mal dans leur peau. Toutes les filles que je croise explosent leur libido. Je suis trop beau, trop beau pour être vrai. Trop craquant et parfait, les yeux du sage peuvent se rapiller. Car c'est moi.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La merveille que vous êtes ». Il y a quelques années, quand j'étais vraiment totalement obsédé par l'illumination, j'ai beaucoup étudié tout ce qui se faisait dans le domaine. Et j'étais tombé sur le livre de Michael Murphy qui s'appelle « The Future of the Body », qui est un livre incroyable. Cet homme-là s'interrogeait sur les pouvoirs, ce qu'on appelle les siddhis en hindou. Les siddhis, ce sont les pouvoirs qui se développent quand on atteint des états spirituels, quand on atteint l'éveil. On commence à avoir des pouvoirs. Ça peut être la vue à 360 degrés, la prescience, la clairvoyance, un paquet de choses comme ça. Et plus, là, la lévitation, la capacité de grandir, de rapetisser, de changer, c'est infini. Donc, dans ce livre-là, lui a décidé de répertorier tout tous les modifications du corps qui existaient sur la Terre. Il est parti dans tous les pays. Il a fait il dit la seule chose qu'il n'a pas vérifiée par lui-même, c'est la lévitation. Mais un paquet d'autres choses a été démontré. Par exemple, quand un saint meurt, il peut grandir. C'est arrivé à plusieurs reprises que le saint peut devenir à 9 pieds de long. C'est son corps qui s'expand. Et puis, ils sont même pas capables de le mettre dans la tombe. Ouais. Ou, par exemple, il peut y avoir une senteur, ce qu'on appelle la senteur de la sainteté. Il va y avoir comme une odeur de rose dans la pièce du saint quand il est mort ou quand il est vivant. Et donc, ça, c'est des choses incroyables. Pour moi, c'est ça que je veux dire. Quand je parle de la merveille que vous êtes, je parle qu'on a un potentiel infini en nous de faire des choses qui sont presque inimaginables. Comme se remettre en santé, grandir, réparer ses yeux, etc. Tout est possible. Mais puisqu'on n'y croit pas généralement, ben ça tue dans l'œuf déjà directement. Je ne sais pas si vous avez des impressions à ce sujet.
Mais là-dessus, moi, qu'est-ce qui me vient à l'idée, c'est que oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a tellement d'exploration à faire sur le potentiel humain. Et je pense que ça revient, comme dirait Marie, la conscience. C'est vraiment la conscience qui va mener le jeu là-dedans et nous amener et nous guider sur l'exploration des différents potentiels humains. Ainsi que, je veux dire, on remonte à des anciens écrits où on parlait qu'il y avait une époque des gens qui étaient capables de le faire dans leur quotidien. Et je me demande souvent pourquoi ça se fait, pourquoi ça se ferait pas, pourquoi on peut pas tout simplement transférer notre conscience dans celle d'un oiseau qui navigue dans le ciel, pourquoi on peut pas tout simplement naviguer, se transporter et se déplacer juste par la pensée. D'ailleurs, je le fais dans une certaine mesure, je le fais dans une mesure quand je suis en repos, quand j'ai du temps, justement, qu'on va parler tantôt. Ces choses-là peuvent arriver aussi à brûle pour point à différents moments. Mais qu'est-ce qui est la tendance opposée à ça que j'observe? C'est ce qu'il appelle le transhumanisme. C'est ce genre de tendance à vouloir mécaniser le corps humain en y ajoutant de la mécanisation des dispositifs, soit électroniques, soit mécaniques, afin de rendre l'humain encore un super être humain dans le sens cyborg. Là. Et ce genre d'approche-là, ben, je trouve que c'est s'éloigner de ce potentiel-là naturel. Et je pense qu'il faut être de grandes précautions parce que, comme Google s'en vient avec le Google, les lunettes Google, là, parce que ton ordinateur, c'est une paire de lunettes que tu peux prendre pendant que tu marches là, pour voir un peu comme le Terminator. Là, tu vois un peu tout ce qui se passe, le Google Map, puis les numéros des restaurants et tout ça là, en marchant. Moi, je trouve que c'est... Faites attention à ça. C'est vraiment une direction vers la machination, la mécanisation, le cyborg être humain. Et je crois que c'est une triste direction.
Oui, parfait, parce que justement, souvent, on peut l'entendre, on peut le ressentir que un travail peut devenir machinal. Justement, on se sent comme une machine, on dit on devient un automate, on crée, on ne fait qu'accomplir ce qui nous est demandé, on n'est pas pleinement nous-mêmes dans notre tâche, dans notre naturel de mouvement, d'action, par plaisir. On est des êtres foncièrement de plaisir. C'est Freud qui le disait à sa façon. Je le reprends, je le cite pas très bien ici. Mais quand même, ce que je veux dire, je pense que nous sommes merveilles parce qu'on le veut aussi, parce qu'on le fait exister, cette réalité-là, comme tout en se donnant un être. C'est pas de quoi qui arrive comme ça du jour au lendemain, ça demande une réflexion, qu'on soit arrêté, qu'on sente que si on ne le fait pas, justement, vers où on se dirige, quel sera notre futur, même si c'est l'instant présent qui compte, mais l'instant présent, on le construit maintenant.
Ouais. Je pense que ça va main dans la main avec se donner la permission d'utiliser notre imagination.
Ouais.
Ce que bien des gens découragent, ce que des gens là, vont ridiculiser rapidement. Et puis, c'est important d'explorer ça, parce que si tu as quelqu'un qui te ridiculise, tu vas te refermer, tu vas t'encloîtrer, tu vas fermer ta capacité d'imaginer, tu vas mettre ça au rencard. Et c'est un muscle qui doit être travaillé, je pense, comme n'importe quel autre.
Oui, puis ça fait un lien avec ce que tu disais tantôt, là, d'avoir un travail dans un bureau où tu es juste un employé qui évidemment tu finis pas, t'as pas besoin de travailler sur ta créativité là, à moins d'être dans une agence de publicité, etc. Là, mais même là, tu vas toujours être centré sur ta petite tasse. Mm-hmm. Moi, je suis obligé, j'ai pas le choix d'être totalement toujours créatif. À chaque semaine, j'essaie de trouver des nouvelles manières de proposer des services, des nouveaux services, et je suis toujours en train de créer des nouveaux sites web qui vont proposer mes services, etc. Et ça fonctionne bien. Franchement, ma dernière création, là, je suis en train de travailler ça avec ma compagne, ça serait de faire des sites web avec une base de données, avec des membres, etc. Moi, ça fait déjà 2 ans que j'y pense puis que je veux le faire, mais c'est compliqué. Complexe, mm-hmm. Et je trouvais pas la capacité, mais ma compagne est spécialiste en base de données, donc ensemble on va faire quelque chose, et c'est pas si compliqué finalement quand tu commences à t'y mettre. Mais pour moi, je sais que dès que j'ai réussi ce projet, j'ai 3-4 clients déjà qui veulent quelque chose comme ça, que je vais pouvoir le vendre, ce projet-là, et je vais pouvoir aider ma compagne à travailler elle aussi. Donc pour moi, ça fait partie de ma personnalité de toujours chercher d'une nouvelle manière de me multiplier. Et pour moi, c'est ça la base du merveilleux, c'est cette créativité qui jaillit constamment, que j'ai des nouvelles idées, et puis c'est concret. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir des idées, mais ça reste dans les airs, et puis ils peuvent se décourager, mais moi, ça se concrétise. J'ai acheté une caméra, j'ai commencé à faire une petite émission de télévision qui était liée à l'émission de radio ici, et tout de suite, j'ai des clients qui m'ont dit « Wow, j'aimerais avoir une vidéo, j'aimerais avoir ci, maintenant j'offre un service de photo ». Mais je faisais pas ça. Moi, j'ai jamais étudié là-dedans. Ça vient juste comme naturel. Puis je me laisse être dans ça. Et je pense pas que je ferais ça si j'étais dans une entreprise. Je vois les gens travailler dans une entreprise. T'es borné dans ton travail. Tu peux pas vraiment en dépasser, généralement. Si tu dépasses, tu vas t'attirer des problèmes. Surtout si t'es un fonctionnaire. Toi, tu as déjà travaillé beaucoup dans la fonction publique. Si t'es trop original, t'es pas populaire.
Ouais, c'est pas comme ça que cela se présente, là, c'est pas ainsi que la contribution, c'est que c'est une tâche prédéfinie, hein, puis il est déjà standardisé et tout. Parfois, on vient à comparer entre les collègues et tout, comment c'est toute une chaîne pour que chacun fasse sa tâche pour qu'il y ait un résultat précis, un objectif à atteindre. Bon. Mais en même temps, donc, moi, il me revenait aussi, suite à cet échange-là, sur une réflexion de Pierre Morency, qui avait écrit son livre « Demandez, vous recevrez ». Il en a parlé justement beaucoup dans les médias depuis plusieurs années, là, qui est connu. Puis j'ai toujours aimé, ça m'a inspiré. Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment appliqué dans ma vie, là, parce que ce n'est pas évident, il faut surmonter ses peurs. Mais cette pensée est très simple. Ça dit, si nous avons tout l'or du monde, c'est-à-dire si on n'a plus aucune préoccupation financière dans sa vie, pour le reste de sa vie, c'est-à-dire on répond aux besoins de base et tout, manger, tout ça, se loger, etc., voyager, puis donc on n'a plus besoin de générer de l'argent, mais qu'est-ce qu'on ferait si nous étions à ce stade-là? Est-ce qu'on continuerait à faire le travail que l'on fait en ce moment? Là, déjà, on a une piste, nous avons une réponse si nous aimons ou non notre travail. Parce que sinon, si on n'avait pas besoin de générer de l'argent, sans doute qu'on n'irait pas à notre travail. Donc, ça veut dire, là, on le sait si on l'aime ou si on ne l'aime pas. Mais ensuite, donc, si vous avez tout l'or du monde, la pensée complète dit ceci, qu'est-ce que vous faites? Faites cela, vous aurez tout l'or du monde. C'est-à-dire, si on se contribue, si on s'investit dans ce que l'on aime le plus, bien, on n'aura plus du tout de sa vie à se préoccuper de générer de l'argent. Ça se fera naturellement.
Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années, moi, j'ai rencontré le philosophe André Moreau. Moi, je faisais mes propres livres à ce moment-là. Donc, j'avais dit à son éditeur, ben, je pourrais faire ces livres sur le web, les scanner, les mettre en page. Et finalement, c'est devenu mon travail. Mm-hmm. Je ne savais même pas que ça allait faire ça. Moi, je l'ai fait par passion. J'en ai fait un. J'y ai montré parce que je connaissais les technologies nouvelles que l'éditeur ne connaissait pas. Lui, il était encore à la vieille école. Qu'il faut que tu fasses imprimer 2000 livres minimum, et puis c'est que ça coûte cher. Mais moi, je dis, ben non, aujourd'hui, tu peux en faire une centaine ou une cinquantaine, puis tu les fais réimprimer à la suite. Et ça a commencé. J'ai commencé à travailler pour lui, puis je faisais son site web. Et puis, ses clients étaient tous des gens dans le domaine de la conscience. Et c'est comme ça que ça a commencé. On m'a demandé de faire des sites web. Je me suis pas vraiment posé la question tant que ça. C'est venu très, très naturel. Et j'étais proche de mon centre. J'étais vraiment dans ma passion. T'sais, moi, je fais des sites web quand même, même si justement j'avais tout l'or du monde, je continuerais à faire des sites web, surtout pour moi, puis j'aiderais probablement mes amis, mais il y a la majorité de ce que je fais présentement, je continuerais de le faire, si j'étais...
Face à cette question.
Bon, excellent, et on va faire une pause avec la chronique de Safia, qui s'appelle « L'art du bonheur », et puis on revient avec ce thème, « La merveille que vous êtes ».
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur. Ici Safia pour l'art d'être heureux. Quel sera cette semaine le levier scientifiquement prouvé pour accroître votre bonheur? Deux études pour vous mettre sur la piste. Pourquoi les nourrissons orphelins d'après-guerre, bien que en sécurité, nourris et soignés, ne parviennent pas à se développer? Devinez quel était l'objet et les constatations de la plus longue étude de l'histoire de la psychologie réalisée pendant plus de 60 ans auprès d'étudiants d'Harvard. Portant sur les facteurs du développement constant et d'une vieillesse heureuse, l'Harvard Study se conclut ainsi. La chaleur des relations tout au long de la vie ont le plus grand impact positif sur la satisfaction de la vie. En résumé, le bonheur est amour. Ainsi donc, le besoin relationnel d'aimer et d'être aimé est aussi vital pour l'épanouissement que celui de s'alimenter, et cela est une vérité, quel que soit l'âge, le sexe ou la culture. Nourrissez donc vos relations sociales, formez des relations saines et établissez des liens étroits. Lorsque nous vivons des relations significatives avec les autres, on se sent mieux, au plan physique et cognitif. Une simple accolade augmente la production d'oxytocine, l'hormone du bien-être. Les émotions positives déclenchées favorisent à leur tour des relations sociales enrichissantes. Les gens heureux sont plus sociables, plus aptes à entretenir des relations et à y trouver du plaisir, trouver un partenaire amoureux ou poser des gestes altruistes. Les psychologues parlent d'effets bidirectionnels et de spirales positives ascendantes. Cultivez donc vos relations. Elles sont essentielles à l'équilibre. D'autant que l'on apprend beaucoup de soi par l'autre. Alain le dit joliment, « Dans la conversation ainsi que dans la danse, chacun est le miroir de l'autre. » Ainsi donc, les chercheurs en psychologie positive nous invitent à nourrir nos relations sociales. Quelques pistes. Accordez du temps à vos amis. Ils vous le rendront bien. Les études révèlent en effet que les contacts amicaux prédisent davantage le bonheur que les relations familiales. N'hésitez pas également à sourire aux rencontres, à chaque personne que vous croisez sur votre route, juste pour se sentir bien, pour s'exercer au don. Quant aux amants, exprimez votre amour et gratitude, physiquement et verbalement. Un spécialiste des couples fixe à 5 contre 1 le point d'équilibre de relations réussies et durables. Pour chaque acte négatif, rancune et hostilité dans la relation, assurez-vous d'employer 5 actes positifs. Vous serez surpris de constater qu'un baiser spontané tout en faisant les corvées peut faire des merveilles. Plutôt qu'un cadeau à date fixe, créez des situations de plaisir. 60 secondes, 3 fois par jour. Effet garanti. Que ferez-vous aujourd'hui pour nourrir et entretenir votre relation? N'hésitez pas à me faire part de vos expériences sur propossurlebonheur.com. C'était Safia pour l'art d'être heureux et cette semaine, je vous souhaite de multiplier vos câlins.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « La merveille que vous êtes ». Alors, quand on a découvert en nous l'abondance de l'infini et qu'on se sent merveilleux, ben, je pense que c'est plus facile d'aller vers les autres, théoriquement. On va en débattre là, parce que en réalité, c'est pas toujours si facile que ça. J'ai remarqué que même si tu te sens le Dieu vivant et puis la personne en face ne se sent pas le Dieu vivant, alors là, il y a comme un gros problème. Et on devient un snob, on devient ci, on devient ça. Donc, c'est pas si clair que ça. Là. Tantôt, tu m'as proposé le thème, Jacques, de parler de ça. Alors, quand quelqu'un qui est en état d'éveil dans notre société n'est pas toujours très populaire. Hein. Il est généralement incompris, si ce n'est pas persécuté. Donc, quand on est merveilleux, on est confronté à la médiocrité. Parce qu'on est comme un miroir qui fait en sorte qu'on ça se reflète. Leur propre médiocrité se reflète. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ils vont dire, on est tous des trous de cul, on est tous des si. Mais si moi, quand on dit ça devant moi, je dis, ben non, t'es peut-être un trou de cul, mais moi, je suis pas un trou de cul.
Le on, comme tu dis souvent.
J'ai souvent arrêté des gens comme ça qui voulaient m'inclure. Gens qui ont
tendance, voilà, c'est ça. Mais justement, ben, si c'est question d'être inclus ou non, moi, le point qui m'intéressait, en parlant de tout ça, c'est la beauté, justement, le fait d'être bien avec soi-même pour... J'ai des aspirations fortes de rencontre, pas toujours, mais là, peut-être beaucoup plus en ce moment qu'à d'autres périodes de ma vie. Mais j'ai aimé entendre des gens... je trouve qu'il y a beaucoup de bon monde, quand même, malgré toute cette ambiance, cette société-là, où c'est si morose, etc. Puis, je pense qu'ils doivent nous inspirer aussi, ces gens beaux-là. On devrait les favoriser, leur dire, les complimenter plus, les remercier de nous offrir toute cette beauté-là. C'est stimulant parce que qui n'est pas confronté au jour le jour à être intimidé devant la beauté d'une personne? Donc là, je me dis, si on se trouve merveilleux déjà soi-même, ben c'est quoi cette histoire-là d'être impressionné par l'autre? De le trouver beau, on perd ses moyens, on peut plus séduire. Hein? On garde encore là, spontanément, je prends le on. Est-ce que ça m'inclut ou ça me... ou non, ce on? Mais, voilà. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que cela doit être un outil pour servir à notre épanouissement. Je parle souvent de ça, c'est souvent mon style. Je pense à chaque émission de radio où j'ai contribué, où j'ai parlé, où c'est toujours un point tournant où je me dis, je pense que nous devons réfléchir, mettre en application dans nos vies des façons de faire pour être bien avec soi-même.
Et c'est évident que si on rayonne, on peut attirer des gens qui rayonnent parce que c'est l'effet miroir, c'est l'effet honnête, qu'est-ce qui lui ressemble.
Mais en même temps, moi, j'ai observé, quand tu mets ton pied à terre, là, pour une manière visuelle là, de dire ça, et qu'on décide d'être ou de redécouvrir notre divinité et de se voir comme tel, on dirait que tout ce qui ne l'est pas va aussi, en contraste, se faire face à nous. C'est comme on dirait un anti-courant de qu'est-ce qu'on essaie de mettre d'avance. Et on va y faire face. Et tu en as déjà témoigné, Nicolas, à plusieurs reprises. Donc, ça fait partie de la chose, mais c'est de figurer une manière de naviguer ça et de se ramener à notre centre, parce que le centre est inépuisable de toute façon. Et pour moi, c'est une forme, ça touche à la respiration, pour moi qui est le portail de l'infini, et une méditation aussi régulière pour me ramener puis me rappeler que tout ça, c'est du relatif. Donc,
Justement, le mot relatif est intéressant parce que quand on s'aime, si moi je m'aime beaucoup, ça me dérange beaucoup moins que les autres ne soient pas très attentifs à moi, à mon œuvre, à ce que je suis. Donc, je pense que ça nous donne une base solide sur laquelle avoir des vraies références, être capable de porter des jugements. Beaucoup de gens vont toujours dire il ne faut pas juger, mais c'est les faibles qui ne jugent pas. Un fort va juger. Tu vas juger, est-ce que cette personne-là est bonne pour moi? Est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'elle est bonne? On doit être capable de juger.
Juger dans le sens d'une évaluation, là. C'est-à-dire de faire un commentaire précis dans sa tête, d'une opinion sur l'autre. C'est parce que l'expression sous-entend aussi de... On ne cherche pas à condamner, c'est-à-dire si quelqu'un a tel type de comportement puis qu'on aime plus ou moins ça, ça peut sous-entendre ça aussi, le fameux jugement, dire « Ah, ben lui, il quête sur la rue, j'aime pas ça, ça me dérange, je le condamne. » Ça peut être perçu aussi sous cet angle-là. Mais il y a toujours la fameuse idée, tout le monde en parle constamment aussi en lien avec la séduction, c'est la fameuse confiance en soi. Est-ce que lorsqu'on se sent merveilleux, évidemment, on devrait avoir une excellente confiance en soi dans les rencontres, dans l'approche, ça devrait être à l'aise, aller vers les autres. Est-ce que vous l'êtes?
Idéalement, oui.
C'est ça, hein? je pense. Est-ce que comment bien cultiver le fait d'être bien avec soi-même? Parce que justement, je crois qu'il faut être bien avec soi-même pour aller vers les autres. Ça, c'est toujours un grand point aussi. Hein? Ouais. La plupart des gens sont en couple parce qu'ils sont pas capables de bien vivre avec eux-mêmes, soi-même, individuellement.
Mais si on cherche quelque chose de pratique, là, si tu poses la question, moi, j'étais tombé sur le Integral Transformative Practice, la pratique transformative intégrale de George Leonard. Il a fondé l'Institut Intégral en Californie. Et c'est une technique intégrale qui, pour ceux qui sont intéressés à faire naître ça en eux, faites quelques recherches sur le sujet. Ça va prendre en compte tous les niveaux de l'être, le corps, le mental, l'âme, l'esprit, à tous les niveaux.
La sexualité,
au niveau de la sexualité, du travail, cosmique, sociétal, communautaire. Et il a développé toute une série de pratiques qui sont tous faites individuellement, s'entraident l'une et l'autre. Moi, j'avais étudié ça il y a une dizaine d'années et j'ai conservé beaucoup de ces pratiques dans ma vie, comme une forme de stretching le matin, un nombre d'heures minimum d'entraînement par semaine, du travail communautaire, des ci, des ça. Et pour moi, ça l'a vraiment contribué à faire fleurir la merveille en moi, le bonheur que j'avais déjà là, mais qui... En vieillissant, le bonheur devient de plus en plus difficile parce que quand on est jeune, tout est facile, on n'a pas de responsabilité, mais on va commencer à vivre comme un individu. Là, on a des responsabilités. On est vers 30 ans, les petites maladies, des petites ci, des petits ça. Donc, ça finit par nous user. Alors, il faut une pratique concrète pour être heureux. Et pour moi, c'est la pratique transformative intégrale qui a vraiment été le gage de succès. Et je l'ai encore après 10 ans. Et c'est quelque chose que tu fais jusqu'à la fin de tes jours. Donc, moi, j'ai l'intention de continuer et d'enseigner ça aux gens qui m'entourent. Parce que c'est un ground. Je ne sais pas si vous avez des conseils pour se sentir... une merveille.
Parle des exercices, comme tu dis, là. Moi, j'ai des exercices, peut-être, en ayant constamment des pensées qui vont en ce sens-là, en se réjouissant de ce que l'on est aussi.
Moi, j'ai une couple de choses que je vois là-dessus que je pourrais partager avec tout le monde. C'est que peut-être prendre l'attitude dans la vie que tout ce qui nous arrive est là pour une raison et ça nous sert. Qu'il y a une utilité dans tout. Ça serait peut-être quelque chose
de... Même si c'est des choses pénibles.
Oui, même si c'est des choses difficiles, tu peux en extraire une information, quelque chose qui est positif. Aussi, quand on a le mot échec, tu sais, j'ai fait ça, j'ai eu un échec dans ci ou un échec dans ça. Lâchez-moi l'échec, là, puis au lieu de voir ça comme échec, il dit tout. Il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas. Il n'y a seulement que des résultats. Mm-hmm. Donc, si la mise en cause, les énergies dépensées, les actions faites ne donnent pas le résultat escompté, ça veut dire qu'il faut modifier l'approche. Mais en réalité, c'est juste ça, des résultats. Et comme on l'a dit tantôt, si on peut marier le jeu avec le travail, ça serait l'idéal. Pas facile.
C'est évident. Comme par exemple, tu vois, là, maintenant, ma compagne travaille avec moi à la maison. Donc, on peut prendre un break sexe, on peut manger ensemble, on peut même aller faire des siestes. Et on a du temps, on est toujours ensemble, mm-hmm. sans vraiment forcer les choses. On a beaucoup de temps ensemble. Et je crois que c'est ce qui tue beaucoup de couples, c'est que les deux travaillent à des horaires qui n'ont pas rapport. Et les moments qu'ils pourraient être ensemble sont fatigués, mm-hmm. parce que je suis quand même fatigué des fois, mais ça correspond généralement avec... la fatigue de ma compagne, donc on va prendre une sieste ensemble. Mm-hmm. Des fois, on va en profiter pour faire l'amour. Et ça, c'est des belles choses que je ne verrais pas arriver dans un travail. Le travail est généralement anti-orgasmique. Si, même dans les fonctions publiques, il y avait un petit local pour aller faire l'amour, ça changerait tout. Hein? Si les gens avaient le droit d'aller prendre un break sexe...
Dans les écoles, les universités, partout...
Ça changerait tout. Bon, c'est pas ça qui est voulu. Quand les gens travaillent dans un travail routinier, on ne veut surtout pas qu'ils se sentent bien.
On veut de la productivité.
Exact.
Quoique il y a des approches quand même dans les entreprises, je pense qu'on n'a pas le temps d'aborder tout ça.
Encore une minute.
Mais simplement pour dire qu'il y a quand même des améliorations, parce que c'est une approche en relations industrielles, etc., de fournir des centres, des petits centres d'entraînement, des lieux pour que l'employé, ben là, on cherche à les faire tenir plus longtemps au travail, qu'ils fassent plus d'heures par jour. Donc, c'est un peu... Mais quand même, si on améliore, semble-t-il, dans les études, que ça donne un meilleur rendement, si les gens sont plus à l'aise, ils ont plus de confort dans leur travail, ça, c'est des mesures 21e siècle, si on veut. Là. C'est des mesures progressistes qui sont intéressantes, auxquelles j'adhère aussi.
Et pour moi, c'est aussi le fait que c'est important de développer notre corps de lumière. C'est la partie lumineuse de notre être. Bien sûr, le corps physique est important, mais si jamais dans notre vie, on pense à illuminer, par exemple, se voir comme une lumière pensante et puis répandre ça dans le monde, je crois que c'est difficile d'être heureux, puis c'est difficile en fait de se sentir merveilleux quand on est terne.
Terne où les gens qui se condamnent, qui se culpabilisent pour toutes sortes de raisons, s'ils n'ont pas fait ceci, cela pour les autres, etc. Comme tu disais d'emblée.
C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Et puis on vous laisse avec une chanson de Vulgaire Machin qui s'appelle « Être comme ». Et avant de partir, je voulais remercier les animateurs, Robert et Jacques.
Merci, bonne semaine.
Martha,
à la console.
Et puis le mouvement jovialiste, Radio Centreville et Radio H2O pour leur appui. Alors, bonne semaine à tous.
Bonne semaine à tous.
Merci. Écoutez l'émission sur proposurlebonheur.com.